Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. Headline edition will bring you special reports and interviews in a moment.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Rancière. Christophe Jubien vous accueille dans les Témoins de l'Invisible, émission consacrée au phénomène des objets volants non identifiés. Nous allons retrouver aujourd'hui Manuel Virotte, historien, auteur d'un très bon livre intitulé « OVNI dans l'océan Indien » publié aux éditions Le Temps Présent. Ce livre est une sorte de catalogue de cas d'observation d'objets volants non identifiés collectés notamment à l'île de la Réunion où Manuel Virotte réside depuis de nombreuses années, mais pas que. Il y a notamment des cas très intéressants à Madagascar. Je vous propose d'écouter justement Manuel Virotte nous en parler.
Alors en 1959, donc on a Louis Rakoto, Harry Jaona et André Kessler, deux gendarmes, qui sont en mission. On est au sud de Tananarive, on est à 100-150 km au sud, au sud-est de Tananarive, la capitale malgache. Et ils sont dans la brousse, dans leur Land Rover, et ils aperçoivent un objet qui atterrit, qui est de dimension, enfin en tout cas qu'ils ont estimé, dont ils ont estimé les dimensions considérables. L'objet, selon eux, faisait 50 mètres de longueur, 20 mètres de large et 10 mètres de hauteur. Il avait la taille d'un œuf. Donc, je m'intéressais à ça. On peut en faire entrer plusieurs dizaines de bus là-dedans. Donc, c'est un énorme objet en forme d'œuf avec des hublots carrés dans sa partie supérieure. Alors, ils sont évidemment extrêmement intrigués. Ils arrêtent leur véhicule, ils s'approchent à pied et ils sont arrêtés ils sont freinés par un souffle chaud, un souffle puissant. Je rappelle aussi que l'objet a fait du bruit en atterrissant et aussi leur montre s'arrête. Il y a des manifestations physiques également. Et donc ils sont tellement quasiment paralysés par ces phénomènes physiques qu'ils s'arrêtent et ils font demi-tour. Ils remontent dans leur voiture, ils démarrent, ils commencent à rouler et la voiture s'arrête. Tombent en panne momentanée et ils lèvent la tête, l'objet est juste au-dessus d'eux. Donc ils ont très peur, ils se réfugient dans la brousse, sous le couvert végétal. Et l'histoire s'arrête là. Il y a quand même un rapport qui a été produit, un rapport de gendarmerie par les deux gendarmes, dont on a connaissance grâce à la revue Mad OVNI de François Toulet, qui est aujourd'hui décédé. François Toulet, c'était un ufologue très réputé qui collaborait avec LDLN et donc qui avait habité Madagascar. Et il rapporte ce cas, il rapporte la photocopie du rapport de gendarmerie. Voilà, donc ce qui est très intéressant, c'est les dimensions considérables de l'objet, et surtout aussi que Louis Rakoto Harry Jaona, suite à ça, quelques années plus tard, va fonder un organisme de recherche ufologique, donc a été très influencé, très marqué par cet événement, et fonde le seul organisme de recherche ufologique connu à Madagascar, en tout cas connu par moi, le Credo. Et pour référencer tous les cas qui viennent à sa connaissance. Voilà donc pour ce premier point. Et donc le deuxième cas que vous évoquez, oui, c'est effectivement le cas de Monsieur Wolf, donc on ne connaît pas son prénom. C'est un cas qui a été enquêté par Lumière dans la Nuit, notamment Henri Julien, qui était un enquêteur assez chevronné, et qui a retrouvé ce monsieur qui, en 1967, faisait partie de la Légion étrangère qui était à Madagascar, dans la région de Diego Suarez, au nord de l'île. Et alors, en 1967, Madagascar est déjà indépendante depuis pas mal d'années. Que fait la Légion étrangère? Eh bien, il s'avère qu'il y a des accords de défense entre les deux pays et que la France a le droit de faire stationner, d'avoir une base de la Légion étrangère dans la zone de Diego Suarez. Donc, ils sont en patrouille, ils sont 23. C'est un grand nombre de personnes, même si on n'a que le témoignage de M. Wolf, ce qui est un peu embêtant, mais bon. Et ils sont en train de se restaurer là autour de midi dans une clairière quand ils aperçoivent un objet qui descend du ciel en feuilles mortes. Donc là aussi, c'est assez classique des descriptions d'objets dans ces années-là, enfin surtout des années 1950-1960. Et l'objet atterrit assez lourdement, donc ils ressentent le son, la vibration. Il est en forme d'œuf également, il est évalué à 7-8 mètres. Et là, apparemment, il y a un temps manquant, un missing time. C'est-à-dire qu'en fait, les légionnaires se souviennent plus trop de ce qui s'est passé. Ils se souviennent du décollage de l'objet qui est parti assez lentement, puis après qui a accéléré brutalement et très très vite. Et en tout cas, à peu près 2h15 ont passé entre le moment où ils se sont rendus compte qu'ils voyaient l'objet et le moment où ils se sont revenus à une certaine forme de conscience. Et ils s'en rendent compte parce qu'ils ont raté 3 vacations radio. C'est-à-dire qu'ils sont en vacations radio régulièrement avec leur base, hein, c'est dans les procédures. Et donc là, ils en ont raté 3. Alors évidemment, ils vont se faire sermonner, ils le savent. Et ils rentrent à la base, ils se font sermonner, ils décrivent ce qu'ils ont vu. Et donc, ils décrivent cet objet qui a décollé. Et dans le cratère, je rappelle qu'il a laissé des traces. Je rappelle aussi que l'objet de Louis Rakoto Arijaona, le gros œuf de 50 mètres de longueur, avait lui aussi laissé des traces. Et il y a une espèce de cratère dans lequel il y a de la roche ou de la terre vitrifiée. Donc il y a une très grande chaleur apparemment qui a été dégagée. Donc là encore un effet physique. Et ce qui est intéressant aussi dans ce cas, c'est que on leur fait jurer le secret. On leur interdit de parler de ça. Et on fait venir donc du personnel. Alors est-ce qu'il est militaire, civil, on ne sait pas. De métropole pour les interroger longuement sur ce qui s'est passé. Et donc, ils racontent ça et ils racontent aussi qu'ils ont eu des troubles physiques, hein, des évanouissements, des étourdissements, une grande fatigue et surtout un trou de 2h30, 2h15 dans leur emploi du temps. Donc, un missing time. Que s'est-il passé? On n'en sait rien. Ouais. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que donc, l'armée, là encore, s'intéresse de très, 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 très près, même si on est à 10 000 km dans la brousse malgache, à cette catégorie de phénomènes et déploie de gros moyens pour les étudier.
Oui, ça paraît évident d'ailleurs qu'un tel cas ait été pris en charge par l'armée française. Alors selon vous, un peu comme ce qui se passe aux États-Unis ou ce qui se passait, je ne sais pas si on doit en parler à l'imparfait au présent, l'État français pratique la désinformation au sujet des ovnis. Il s'agit, selon vous, de réduire l'intérêt du public hein, pour ensuite noyer le poisson et peut-être s'éviter les efforts d'une enquête approfondie. Vous soupçonnez notamment le GEPAN de cela couler douce hein, finalement en proposant des explications qui ne tiennent pas la route, hein, des explications un peu toutes faites.
Alors je soupçonne pas le GEPAN de cela couler douce, ça voudrait dire qu'il ne fait rien. Non, je soupçonne en fait littéralement le GEPAN de désinformer, de ne pas délivrer son information, de la présenter de manière biaisée, de manière à réduire effectivement l'intérêt du public. Et à ce propos, donc, je voulais étayer cette affirmation et je me suis intéressé aux bases de données disponibles, hein, qui sont américaines ou qui sont celles du GEPAN, parce que j'ai constaté que le GEPAN, depuis les alentours de 2010, réduisait considérablement les cas, et particulièrement les cas à haute étrangeté, les cas D. Hein. Je rappelle qu'il y a 4 types de cas, A, B, C et D, selon leur indice d'étrangeté et leur consistance, comme selon la terminologie du GEPAN. Donc, s'il y a beaucoup d'observateurs, si la distance en termes d'information est très éloignée des observations connues et reconnues. Voilà, donc ça, c'est l'indice d'étrangeté. Et les cas D sont les cas les plus étranges et les plus consistants. Les cas D, on en a eu, depuis la création du GEPAN en 1977, on tourne autour de 20% de cas D. 1 sur 5 est un cas qui est classé comme étant de la catégorie D. Et on constate que depuis les alentours de 2010, le GEPAN cherche à faire tout ce qu'il peut pour réduire les cas. Donc les cas D deviennent des cas parfaitement identifiés. Donc un cas D, c'est un cas d'OVNI. Un cas A, c'est un cas parfaitement identifié. Un cas B, c'est un cas probablement identifié. Et un cas C, c'est un cas qu'on ne peut pas identifier ou qu'on ne peut pas évaluer faute de données. Donc, le GEPAN fait tout ce qu'il peut pour rétrograder les cas D en cas A ou B. Et donc, je me suis longuement interrogé sur le pourquoi de cette nouvelle façon de faire. Et j'ai constaté en consultant les bases de données, donc celles du NUFORC, celles du MUFON, celles du GEPAN, donc le NUFORC et le MUFON sont deux grandes organisations américaines qui tiennent donc des catalogues de cas, hein, qui les référencent mois après mois ou année après année, et ainsi que ceux du GEPAN. Et on constate, là j'ai les graphiques sous les yeux, hein, on constate que eh bien, les cas augmentent considérablement dans les années 2009-2017 à peu près, qu'on a une une vague de cas, hein, tant en France que dans le reste du monde, hein, d'après ces bases de données, avec deux pics en 2009 et 2015. Et donc, c'est justement à ce moment-là où les cas augmentent considérablement. Je rappelle qu'autour de 2015, on est à peu près, alors je regarde, mais à 8000, 9000 cas par an.
Oui.
Autour de 2015, on est à 8000, 9000 cas par an. C'est considérable. Et donc, c'est précisément à ce moment-là, donc, dans la décennie 2010, que le GEPAN se met à discréditer les cadets, à essayer de les rétrograder, de les déprécier. Voilà, donc pour moi, l'explication, elle est là. On veut éviter que, d'une part, il y ait la population qui s'affole, d'autre part, que le bureau OVNI, enfin, que le service OVNI du GEPAN soit complètement saturé par les appels, par les témoignages. Donc, on cherche à tempérer un petit peu les ardeurs du public en dépréciant les cas. Et aujourd'hui, on est à peu près à 2% de cadets. Mais ça, c'est les cas qui sont référencés depuis 1954.
Ouais.
Parce que si on prend les cas de ces dernières années, on est à 0,2, 0,3% de cadets. Il y en a plus en quelque sorte, donc il n'y a plus rien à voir circuler. Ah, voilà, oui. C'est un peu ça la politique du GEPAN. Et inversement, aux États-Unis, c'est plutôt le contraire. Alors voilà, il faut essayer d'interpréter tout ça et ce n'est pas facile.
Ouais. On ne peut pas imaginer qu'une autre instance, finalement, plus discrète, prend la question OVNI en charge en France. J'ai été frappé du fait que, par exemple, on a davantage vu dans les médias les gens de la commission Sigma que les gens du GEPAN lorsqu'il s'est agi de parler de la déclassification des cas américains là, de ces derniers mois, là, finalement, concernant le Pentagone. On a plus vu la commission Sigma que le GEPAN à la manœuvre.
Oui, c'est vrai. Alors, si on reprend l'expression de Jean-Pierre Petit, les rôles pourraient se distribuer comme ça. Donc, le GEPAN, c'est la boîte aux lettres, celui qui récolte les cas, celui qui fait ce genre de travail. Et Sigma 2 serait plutôt l'analyse pointue, fine du phénomène. Ça, c'est pour la partie publique, hein, GEPAN, Sigma 2. Est-ce qu'il y a une étude secrète? C'est la grande question. C'est la grande question. Je pense que vu l'intérêt que déploie l'armée, vu les enquêtes qu'il mène, je rappelle par exemple pour Tananarive en 1954, on n'en a pas parlé, mais bon, c'est un cas extrêmement, extrêmement connu. L'armée de l'air aurait mené une enquête qu'elle aurait confiée à un civil, hein, le directeur de l'observatoire de Tananarive, mais quand même qui aurait interrogé pas moins de 5000 personnes. Alors effectivement, là, Joël Ménard qui s'est penché là-dessus sur la question bien avant moi et dont je m'inspire beaucoup pour donner ces chiffres, s'interroger sur la possibilité que ce chiffre soit réel, 5000 personnes, ça paraît beaucoup. Mais bon, en tout cas, même à Madagascar, même très loin de la France, l'armée de l'air a déployé de très grands moyens. Donc ça, tout ça, ça coûte beaucoup d'argent et on a du mal à imaginer que ce serait simplement pour cataloguer ces cas, et les référencer, et puis c'est tout. Ouais. Je pense qu'il y a une autre utilisation qui est faite, très certainement. Ouais.
Alors, Robert Roussel, que vous citez, hein, Robert Roussel, qui est un journaliste qui s'est un peu spécialisé dans les ovnis depuis quelques années et qui a ses entrées dans les hautes sphères de la gendarmerie. Robert Roussel a découvert dans les archives de l'armée de l'air et de la gendarmerie de nombreux cas spectaculaires qui n'ont jamais été portés à la connaissance du grand public. Et ça veut dire...
Oui, c'est ce qu'il dit. Alors, je connais Robert Roussel. Hein, j'ai pas réussi à avoir plus de détails sur cette affirmation. Je pense, moi, qu'il fait référence au cas de 1954. Je pense.
Oui.
Je pense qu'il fait référence à cette année-là et je pense que ces cas-là concernent l'année 1954. Oui. Mais voilà, j'ai pas pu avoir davantage d'informations. Effectivement, il parle de dizaines de trans en Provence. Donc, trans en Provence, c'est un cas qui a eu lieu au début des années 80, en 1981, qui est assez... qui est très connu et c'est un cas référence pour l'ufologie française d'un atterrissage.
Ouais.
Et si on parle de dizaines de trans en Provence dans les archives de la gendarmerie, peut-être qu'on fait référence à 1954 où on en a eu effectivement beaucoup. Donc c'est peut-être simplement ça. Ouais. L'explication, voilà. Mais je ne peux pas apporter de précision là-dessus.
Oui, oui. Rappelons tout de même à nos auditeurs et à nos auditrices que la durée de classification des rapports de gendarmerie concernant les ovnis a été rallongée à la fin des années 70 et elle est désormais de 60 ans. Ce qui est énorme, 60 ans pour un rapport d'OVNI.
Ce qui est considérable, alors que en fait, quand on considère qu'aux États-Unis, il n'y a pas de durée légale grâce à la loi FOIA, un citoyen américain ou peut-être même étranger peut faire la demande d'un document administratif américain ayant rapport aux OVNI sans qu'il y ait une durée de classification légale et si longue qu'en France. Donc c'est assez incroyable en fait.
Oui. Et ce qui est très étrange d'ailleurs, c'est que à quel point la gendarmerie a pu ouvrir ses dossiers à un journaliste comme Jean-Claude Bourret au début des années 70 pour finalement fermer le robinet comme ça quelques années plus tard. Hein. Quand l'État veut communiquer, il se débrouille pour communiquer tout de même.
Oui, c'est assez intriguant. Et là, j'aime bien reprendre toujours l'expression de Jacques Vallée qui s'interrogeait toujours sur la raison pour laquelle on a, à certaines périodes, une ouverture du robinet, comme vous dites, une ouverture des autorités sur la question, et ensuite une fermeture et une alternance d'ouverture et de fermeture. Alors, on ne sait pas quelle en est la raison, mais là, je vous le disais, par exemple, avec l'observation que je faisais sur ces dernières années avec le GEPAN, on est clairement dans une période de fermeture. Et cette fermeture, probablement pour les raisons que je vous ai indiquées. Mais inversement, aux États-Unis, on semble être dans une période d'ouverture. Donc c'est assez curieux parce que la plupart du temps, les pays ont l'air de marcher de conserve. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a fermeture aux États-Unis, il y a fermeture en France et vice-versa. Et là, ça semble être un peu différent. Alors peut-être que ce qui se passe aux États-Unis en ce moment sont des fuites qui ne sont pas intentionnelles et pas délibérées. Ou peut-être que non, et si ce n'est pas le cas, alors à ce moment-là, les deux pays marcheraient différemment.
Ouais. Et comment vous avez vécu ce qui s'est produit l'année dernière avec la révélation par Luis Elizondo d'une étude secrète du Pentagone, puis après le Pentagone avoue qu'effectivement, il y avait une commission, contrairement à tout ce que les États-Unis avaient pu dire depuis la fermeture du projet Blue Book. Les États-Unis continuent d'étudier les ovnis. Comment vous avez vécu ce déballage finalement?
Eh bien, ça confirme ce que pensent les gens qui s'intéressent de très près à cette question. Hein. Ça confirme tout simplement que il n'y a pas de complotisme derrière tout ça, hein, parce que le grand public ou quelqu'un qui serait pas au fait de ces questions dirait « Ah, vous êtes des complotistes, etc. Vous pensez qu'on vous cache des choses. » Mais bon, ça confirme purement et simplement que, effectivement, sur la question OVNI, l'État américain cachait des choses. Et donc, quand il a dit en 1969... à l'issue du rapport Condon, du rapport de la commission Condon sur les dossiers Blue Book, bon, quand il a dit que désormais il n'y avait rien à voir, que c'était pas dangereux, que le phénomène n'était pas intéressant scientifiquement et que l'armée de l'air américaine allait clore officiellement le dossier OVNI, eh bien c'était un mensonge. Donc il n'y a pas de complotisme derrière tout ça. L'État américain cache des choses sur la question. Et donc ce qui a été révélé par Luis Elizondo, là, je crois que c'était en 2017, il me semble, donc qu'il y a eu, c'était un article du New York Times qui révélait ça, qu'il y a eu un programme entre 2007 et 2012, donc pendant 5 ans, qui a consacré 20 millions de dollars sur la question, et bien donc, c'est la démonstration que l'armée américaine avait menti sur cette question. Et donc, si elle a menti sur cette question à ce moment-là, il n'y a pas de raison qu'elle n'ait pas menti à d'autres moments. Ouais. Alors 20 millions de dollars, ça peut paraître pas grand-chose. Hein. Le budget de la défense américain, c'est 700 milliards de dollars par an. Donc c'est une goutte d'eau dans ce budget. Mais c'est le budget déjà qui est révélé, première chose. Et c'est quand même un budget qui est non négligeable pour un phénomène qui n'est pas intéressant scientifiquement, pour un phénomène qui ne présente pas de danger, et pour un phénomène qui n'interpelle pas l'intérêt de l'armée américaine. Donc voilà. Et on constate que depuis lors... Et l'armée américaine a créé des structures d'études hein, au sein de la Navy, au sein du renseignement, et qu'on étudie la question officiellement. L'intérêt est admis et reconnu officiellement envers les ovnis.
Ouais. Il nous reste encore 5 minutes. 5-6 minutes, la dernière partie de votre livre est consacrée aux hypothèses, bien évidemment, parce que depuis 1947, eh bien, on a vu fleurir un certain nombre d'hypothèses au sujet de l'origine et de la nature des ovnis. Il y a évidemment l'hypothèse extraterrestre et puis une hypothèse extraterrestre au second degré ou élargie. Il y a l'hypothèse socio-psychologique, il y a, si j'ose dire, l'hypothèse magonienne qui avait été privilégiée par Jacques Vallée. Aujourd'hui, laquelle tient la corde, si j'ose dire?
Alors l'hypothèse humaine que vous n'avez pas citée se renforce aujourd'hui. avec effectivement les drones, hein, toutes ces nouveaux instruments, tous ces nouveaux appareils qui se généralisent, qui se diffusent et qui sont utilisés massivement. Donc les sources de confusion avec ces objets typiquement humains augmentent en fait. Avec aussi les satellites qu'on envoie massivement dans l'espace, hein, les satellites Starlink, les satellites envoyés par Elon Musk et sa compagnie. Voilà, des constellations de satellites. Donc les méprises, hein, les confusions vont probablement augmenter avec tout ça. Après, pour moi, l'hypothèse extraterrestre tient la corde, évidemment, et je suis pas le seul à le dire. Enfin, je suis pas le seul à le dire. À mon petit niveau, je le dis, mais à un niveau bien plus élevé, des gens comme l'administrateur de la NASA, Bill Nelson, vous avez dû en entendre parler, ont déclaré récemment, enfin il y a quelques mois, que effectivement les pilotes de l'armée de l'air américaine voyaient des choses, les fameux tic-tac, et que c'était pas des imbéciles, et que ce qu'ils voyaient, ça avait été enregistré par les caméras thermiques, par les caméras, par les radars, par d'autres systèmes également, et visuellement également. Donc tout ça signifiait qu'il y avait des technologies très en avance sur les nôtres, et que l'hypothèse extraterrestre était loin d'être idiote. Voilà ce qu'il a dit. Il n'est pas le seul à avoir dit ça. La directrice du renseignement, Avril Haines, l'américaine qui chapeaute un petit peu les agences de renseignement américain, a dit également un peu la même chose. L'hypothèse extraterrestre tient la route. Donc si ces gens-là commencent à dire ces choses-là publiquement et ouvertement, c'est que c'est une hypothèse sérieuse, et c'est ce que je pense également.
Et puis on a eu aussi, moi j'ai eu en tout cas été assez surpris que du côté français, donc depuis cette affaire justement du Pentagone, on s'exprime. J'ai pensé notamment aux interventions d'Alain Juillet dans les médias. Alain Juillet qui était un ancien directeur de la DGSI, donc un super espion français qui privilégie lui aussi cette hypothèse extraterrestre et puis qui tout simplement se met à parler des ovnis alors qu'on ne l'avait jamais entendu sur ce sujet. C'est assez surprenant
Oui,
aussi.
on dirait qu'il y a du changement, on dirait qu'il y a du changement dans l'air, ce qui va un petit peu à contre-courant de la politique du GEPAN, mais voilà, oui, effectivement, on dirait qu'il y a du changement dans l'air. Alors, est-ce que c'est encore une sinusoïde comme celle que l'évoquait Jacques Vallée, hein? Est-ce que c'est une ouverture qui va être suivie par une fermeture? Est-ce qu'on est dans ce cycle-là des ouvertures-fermetures, ou est-ce que ça va déboucher sur quelque chose de plus concret? Alors moi, en tant qu'historien, j'aurais tendance à dire que ce n'est qu'un soubresaut de cette longue histoire des ovnis, d'ouverture et de fermeture, hein, que ça va rien changer du tout, parce que depuis les années fin des années 40, le nombre de fois où on a attendu le grand contact, la grande révélation, que c'était pour demain, que c'était pour après-demain, et ça s'est jamais produit. Donc là, je pense, d'un point de vue historique, ça va être la même chose, à mon avis. Mais il n'est pas exclu qu'on puisse avoir certaines révélations. Et notamment, je fais un petit lien avec l'exploration martienne. Dans mon livre, justement, j'en parle. Il y a des choses qu'on découvre et qui vont peut-être être révélées, des choses très inhabituelles, bouleversantes en fait. Puisque là, je crois que c'était en 2019, un des responsables d'une mission martienne, d'un rover martien, disait exactement ceci, et je cite ça dans mon livre. Il disait, voilà, alors il est très probable que dans les années à venir, on va découvrir la vie sur Mars. Mais on ne sait pas comment l'annoncer. Notre gros problème, c'est comment l'annoncer. Donc la phrase est extrêmement ambiguë. Il est très probable qu'on va découvrir la vie, mais on ne sait pas comment on va l'annoncer. Enfin, moi, je décrypte ça comme on a découvert la vie sur Mars, et notre gros problème, c'est comment le dire et comment être sûr que ça ne va pas déclencher des mouvements qu'on ne maîtrise pas, en fait.
Des mouvements de
Voilà,
panique.
donc si on a découvert la vie sur Mars, il y a peut-être d'autres révélations qui vont suivre, en tout cas, peut-être d'autres choses seront dites.
On a le sentiment en tout cas que les gens finalement sont plutôt prêts quand même aujourd'hui à accueillir cette hypothèse et que même au niveau scientifique, on sait très bien, enfin en tout cas les scientifiques pensent que la probabilité pour qu'il y ait de la vie ailleurs dans l'univers est énorme, 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 probablement sur des millions de planètes peut-être à travers l'univers. Donc aujourd'hui finalement, mentalement, l'être humain est plus ou moins prêt, non, à accueillir cette nouvelle d'une vie extraterrestre. Vous n'avez pas ce sentiment?
Alors moi je pense que Déjà, il y a un consensus des scientifiques, je pense qu'il y a un consensus quasi général pour dire que la vie existe dans l'univers, mais loin de nous. Voilà, loin de nous, ça c'est quand même quelque chose d'important. Voilà, alors après, est-ce qu'on est prêt? Je pense véritablement que c'est vraiment une très grande peur, hein, des autorités, ça. Qu'est-ce que ça va déclencher comme mouvements sociaux? Voilà, quelles vont être les conséquences de telles révélations? Et je ne suis pas certain, moi, qu'on soit tant prêt. Alors évidemment, ceux qui s'intéressent à l'ufologie, à la vie extraterrestre, sont tout à fait prêts à ce genre de choses. Vous et moi, c'est certain. Quoique. Mais après, est-ce que le grand public, est-ce que la personne lambda qui s'intéresse pas du tout à ça, comment va-t-elle réagir? Moi, je pense souvent à des membres de ma famille qui sont terrorisés par ces choses-là. Je sais pas. En tout cas, je pense quand même quelque chose, c'est que je pense que quelque part. Ce genre d'informations seront tellement noyées dans un océan d'informations qu'on connaît aujourd'hui, elles n'auront pas la portée qu'elles auraient pu avoir il y a quelques décennies. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on est tellement noyé dans tant d'informations que si ça se trouve ça passera comme n'importe quelle autre information et ni plus ni moins. On verra bien.
Alors, on a l'impression que c'est de toute façon le phénomène OVNI lui-même qui a l'agenda en main. J'ai entendu un statisticien dans le documentaire de Dominique Filhol, OVNI secret d'État, un statisticien qui, je crois, travaille notamment pour le GEPAN, dire que ce qu'il avait mis en lumière, lui, à travers ses études, c'est qu'il y avait une sorte de programme éducatif à la base du phénomène OVNI avec des révélations successives et que, il donnait une date, 2035, pour la prochaine vague et peut-être la dernière vague, c'est-à-dire le dévoilement du phénomène lui-même. Est-ce que ça vous paraît
Alors moi, j'ai effectivement, c'est Michael Vaillant
Michael Vaillant,
qui
voilà, c'est
travaille au
ça.
GEPAN et qui est très très sérieux. Le programme éducatif, c'est Jacques Vallée, hein, au
Qui en avait
départ,
parlé, oui.
qui a lancé cette idée. Je sais pas. Moi, ça me paraît. J'ai l'impression qu'on est un petit peu dans des démarches très spéculatives, hein, malgré
Oui, bien
tout,
sûr.
malgré tous ces calculs. Donc c'est qui ont commencé avec l'orthoténie d'Aimé Michel, hein. Je suis pas certain, moi, qu'on puisse prédire à si long terme ce qui va se passer. J'en doute même fortement.
Oui, on fait ce qu'on peut, quoi.
Voilà. Donc, je pense que les chiffres, on peut quand même leur faire dire beaucoup de choses quand on a envie de leur faire dire des choses. Cela dit, Michael Vaillant est très très sérieux. Hein, je le souligne. Hein, c'est vraiment quelqu'un de très compétent qui fait du très très bon travail. Hein. Mais voilà, bon, c'est son idée, c'est sa démonstration. Je sais pas. Je suis pas. De toute façon, je suis pas capable de dire si c'est bien ou non. Je n'ai pas la formation pour juger de ça.
Eh bien, affaire à suivre, cher Manuel Virotte. Je rappelle le titre de votre livre, Les ovnis dans l'océan Indien. On apprendra une foule de choses en le lisant. Et c'est donc publié aux éditions JMG. On peut bien évidemment le trouver en librairie ou, s'il n'y est pas, l'y commander. Merci beaucoup, Manuel Virotte. Fin de cette édition des Témoins de l'invisible. On se retrouve dans 4 semaines pour une nouvelle édition.
Buffalo soldier, dreadlock rasta. It was a buffalo soldier in the heart of America, stolen from Africa, brought to America, fighting an Iraqi.